Les premières écoles en plein air apparaissent dans les années 1920, à la croisée des enjeux pédagogiques, médicaux et sociaux. Elles visent à préserver les enfants de l'air pollué et de la tuberculose, tout en réinventant la forme scolaire. Aujourd'hui, 5 ans après la crise sanitaire et les confinements successifs, de nombreux enseignants éprouvent le besoin de sortir de la classe pour faire travailler leurs élèves dehors et les reconnecter au vivant. L'éducation hors des murs connaît actuellement un regain d'intérêt, car elle permet d'échapper à la rigidité de la classe en favorisant un apprentissage en extérieur. Cette pratique ancienne devient une réponse contemporaine aux enjeux éducatifs et au mal-être du système. Sortir devient un geste pédagogique et également militant. En ce mois de mai où la nature foisonne, CAD École vous propose une série thématique autour de l'école dehors.
Aujourd'hui, nous accueillons Yvette Latuilière. Bonjour.
Oui, alors moi, je suis initialement professeure des écoles et devenue formatrice à la faveur de reprise d'études en sciences de l'éducation. Et j'ai terminé ma carrière très récemment, là, au mois de novembre. J'étais conseillère pédagogique en éducation au développement durable et à la transition écologique. Ce pourquoi, depuis 9 ans, je me suis vraiment tournée vers les dimensions de développement durable et beaucoup depuis 4 ans sur la classe dehors, puisque ça nous semble une grande opportunité pour développer la conscience écologique des élèves et cette approche ambitieuse aujourd'hui de développement durable pour les générations futures.
D'accord. Et du coup, en tant que conseillère justement au développement durable auprès des enseignants, quel était votre rôle dans la promotion de l'école dehors, peut-être plus spécifiquement ?
Alors, en tant que conseillère pédagogique développement durable, j'avais avec mon inspecteur de tutelle la charge d'un programme de formation à destination des enseignants. Et dans ce programme de formation, depuis 2021-22, parce que j'avais suivi les évolutions liées à toutes les approches sur notamment le syndrome de manque de nature, mis en avant par un journaliste américain d'investigation, Richard Louv, en 2005. Et depuis 2010, c'était des questions qui commençaient à être mises en avant. Et on s'est préoccupé effectivement de permettre aux enfants d'une meilleure connaissance de la biodiversité. Et on a inclus dès 2021-22 dans le Rhône un module de formation de 6 heures en présentiel. On a renoncé aux formations hybrides pour ces premiers modules parce qu'on voulait vraiment mettre les enseignants en situation dehors en tant que formés également. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé sur la classe dehors depuis 2021-22.
D'accord. Et du coup, c'est cette idée que le manque de nature, c'était votre motivation principale, donc quelque chose qui a été relevé par la recherche. Et est-ce que c'est ça qu'on appelle du coup le paradigme éco-formateur ? Parce que c'est quelque chose dont on entend parler, ce terme-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme si...
Alors, le paradigme éco-formateur, moi, j'en suis pas une spécialiste, d'autres le sont, mais effectivement, c'est un souci, et c'est inscrit dans les programmes éducation nationale depuis 2015, de permettre aux élèves de développer, dès la maternelle, une conscience écologique, c'est-à-dire une conscience d'un nouveau rapport au monde vivant, ça passe par la découverte, par l'observation, par la description de tous les êtres vivants, humains et non humains, qui nous entourent. Et cette prise de conscience, notamment, en pied d'immeuble, à proximité des écoles, au plus près des élèves, de toute cette vie que souvent on prend pour un élément de décor. Un arbre, c'est souvent un élément de décor, comme un poteau, comme un pilier, comme un immeuble, alors que c'est du vivant qui nous accompagne tout au long des années. Donc c'était vraiment cette perception qu'il nous fallait aujourd'hui redécouvrir ce rapport, parce que c'est de là que viennent les humains, de ce rapport très, très proche de la nature, duquel on s'est vraiment éloigné pendant quelques décennies, voire quelques siècles, notamment depuis l'ère industrielle.
Et du coup, vous disiez au pied de l'immeuble, c'est déjà de la classe dehors en fait. Donc, en fait, quand vous montez un projet classe dehors, ça peut être au pied de l'immeuble, mais ça peut aussi être beaucoup plus loin dans la forêt. Est-ce que vous avez vu ?
Bien sûr. Oui, oui. La classe nature idéale, entre guillemets, ce serait la classe en forêt, les fameuses forest schools qui sont beaucoup développées au Danemark et en Allemagne notamment, mais pas que. Il y en a une dans les monts du Lyonnais, là, à Saint-Martin-en-Haut, qui existe depuis 3 ans maintenant. Mais c'est quelque chose qui reste marginal. L'ambition de la classe dehors, c'est vraiment permettre à tous les élèves, quelle que soit leur insertion en milieu urbain, périurbain ou rural, de se rapprocher du vivant naturel de proximité. d'humanité. Et il y en a toujours. Et c'est pour le coup l'occasion d'émerveillement et d'engager les enfants dans une démarche de préservation aussi. On découvre ce vivant, on découvre l'arbre de la cour de l'école, dont très souvent les enfants et quelquefois aussi les enseignants ne savent pas dire le nom. Et bien, on va découvrir non seulement comment il s'appelle, mais comment il vit au fil des quatre saisons. Et ça ouvre ensuite à des explorations et à une approche sensible et une approche consciente aussi de la nécessité de préserver cette biodiversité. Ça engage vraiment dans des processus très vertueux et qui permettent aux enfants aussi de sortir, pour quelques-uns aujourd'hui, de ce qu'on pourrait appeler d'une éco-anxiété, mais qu'on a plus envie d'appeler d'une éco-conscience. Parce que quand on prend conscience de ce vivant avec lequel on cohabite en toute inconscience en général, eh bien quand on en prend conscience, ça donne une dynamique vitale vraiment importante. Et des projets qui sont vraiment dans lesquels les enfants, les jeunes enfants s'engagent avec leurs professeurs.
Et du coup,
ça leur fait du bien.
Ah oui, merci. Ça m'amène une question. Les moments d'apprentissage, en fait, ils se font vraiment au moment de la classe dehors, ou est-ce que nécessairement il faut un retour en classe et c'est là qu'il y a appropriation, on va dire, des contenus ou des apprentissages? Ou est-ce que vraiment il y a aussi une pédagogie de l'extérieur? Il y a quelque chose qui se passe dans l'apprentissage aussi à l'extérieur? Est-ce que vous savez un peu comment?
Alors, il y a une spécificité à ce qu'on peut faire dehors, parce que moi, je m'amuse un peu avec ce mot-là, mais dehors, on apprend en grandeur nature. Hein. Par exemple, tout ce qu'on peut travailler en mathématiques sur les formes géométriques ou sur les grandeurs et mesures, on peut vraiment apprendre à faire des mesures dehors avec différents instruments, de manière très concrète, avec, pour le coup, une exploration bien plus large que ce que l'on fait entre quatre murs de classe. Mais ce qui est très important, c'est d'articuler la classe dehors à la classe dedans. Et donc, on peut les classes qui font le plus classe dehors, elles sont à une après-midi ou une matinée, une demi-journée par semaine. La fréquence la plus importante, c'est une demi-journée par semaine. On a encore rarement des écoles qui y vont deux fois par semaine. Donc, cette fréquence, elle nécessite que l'on envisage, dans le cadre de ces programmations de classe périodiques, comme une classe, on va dire, normale, eh bien, qu'on envisage des apprentissages à l'extérieur qui ne sont pas artificiels, qui sont complètement reliés à ce qui s'étudie dedans, mais en lien avec mon projet du moment, je vais pouvoir bénéficier d'une classe dehors pour lancer un sujet de recherche, pour approfondir une expérimentation, une découverte, une exploration, ou pour même pour conclure un travail scientifique ou un travail, typiquement, je pense à ce qui peut se faire quelquefois en lecture à haute voix dehors, eh bien, on est sur la mise en l'envoi de textes qui peut être bien plus performante que ce que l'on peut faire en classe dedans. Donc, vraiment, la classe dehors, eh bien, ça se combine complètement. Alors, ça s'apprend, hein, pour les enseignants, c'est une forme pédagogique vers laquelle ils ont envie d'aller, ceux qui en comprennent l'ambition, mais il faut apprendre effectivement comment on va pouvoir l'inclure complètement à ce qu'on fait en classe dedans. Ce n'est pas déconnecté, c'est complètement en lien et c'est un plus pour valoriser des apprentissages et pour faire des apprentissages. Typiquement, tout ce qui tourne autour de l'observation du dehors et de tout ce que l'on peut découvrir dehors et sur lequel on va s'appuyer pour enseigner des maths, du français, des sciences, de la géographie, à partir de toutes les lectures de paysages, par exemple, et sans parler de tout ce qu'on fait du point de vue artistique et sensible, le dehors est un plus pour enrichir le dedans. Mais c'est complètement articulé, c'est pas quelque chose qui est à côté de ce que l'on fait en classe dedans.
Oui, en fait, vous parliez justement de cette posture et du fait que ça s'apprend pour les professeurs. Donc, est-ce que vous auriez, pour nous décrire un petit peu cette posture pédagogique des professeurs qui est spécifique à la classe dehors?
Ah ben oui, ça signifie que pour l'enseignant, il est pris conscience de cette nécessité pour les élèves d'avoir besoin du dehors, déjà pour faire plus d'activités physiques. Aujourd'hui, on a 30 minutes d'activités physiques supplémentaires en classe chaque jour. Lorsqu'on fait classe dehors, on ne se pose pas la question de comment je vais faire ces 30 minutes supplémentaires. Forcément que pour se déplacer jusqu'à l'espace classe dehors, on a déjà quelques minutes d'activités physiques supplémentaires et puis on bouge en classe dehors, forcément. Et donc, il y a ce gain physique. Les chercheurs ont bien démontré qu'il y avait un gain santé. Les enfants qui font classe dehors en sont en meilleure santé. Ils ont de meilleures performances immunitaires. Ils résistent beaucoup mieux aux virus et aux microbes. Et puis, il y a toute la santé globale. Parce qu'être en bonne santé, ce n'est pas seulement ne pas être malade, hein, c'est en bonne santé physique, mentale et sociale. Et on se rend compte aussi, et c'est pas magique, mais même les enseignants qui sont quelquefois frileux en se disant « j'ai des enfants compliqués en classe, qu'est-ce que ça va donner dehors ?» Eh bien, l'acculturation à la classe dehors, la ritualisation de la classe dehors et tous les possibles que l'on découvre dehors font que ces enfants, bah, comme les autres, ils s'autodisciplinent et les choses se passent, sont plus apaisées dehors que dedans. Donc, le bénéfice est mesurable et les enseignants qui s'y lancent s'en rendent compte assez vite. Avec l'accompagnement, bien sûr, ils n'y vont pas tout seuls. On sort toujours au moins à deux, voir si on peut embarquer des parents avec nous, impliquer des parents avec nous dans cette classe dehors. Eh bien, on sort à trois ou quatre et c'est confortable pour faire travailler les enfants en petits groupes sur des recherches spécifiques dehors. Donc, les enseignants qui y vont, c'est l'envie aussi pour eux d'avoir d'autres temps avec leurs élèves, de pouvoir explorer la biodiversité dont on sait aujourd'hui qu'elle s'effondre et il est urgent, sans vouloir alarmer les enfants, d'en prendre soin. Donc pour en prendre soin, il faut la connaître, il faut l'explorer, il faut la comprendre, comprendre comment fonctionne l'écosystème naturel dont on est proche. Et à partir de là, ça déclenche très vite chez les enfants une sensibilité très forte pour la protection.
D'accord. Et dernière peut-être question, vous parliez justement des professeurs qui ont envie de s'y mettre. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une pratique qui s'étend ou alors est-ce que c'est une pratique qui a toujours existé et qui peut-être aujourd'hui est plus médiatisée?
Alors ça a déjà existé, c'est pas une nouveauté, comme dirait Philippe Mérieux. Célestin Freinet, c'est le grand pédagogue français qui emmenait ses élèves en promenade et il faisait avec ses élèves des leçons de choses. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, aujourd'hui on est sur une méthode d'investigation scientifique, une démarche qui va prendre son temps et donc chaque semaine on va pouvoir poursuivre ces investigations et approfondir le sujet en ayant aussi des temps de structuration et de documentation en classe dedans. Mais aujourd'hui en France on prend un peu le train en marche, mais dans de nombreux pays d'Europe du Nord, anglo-saxon, la classe dehors est quelque chose qui est vraiment bien développé et ce n'est pas du tout un gadget, c'est vraiment une nécessité pour que nos enfants ne soient pas élevés hors sol. On sait aujourd'hui comment les écrans les prennent, les captent. C'est aussi un moyen de leur montrer qu'il y a autre chose à faire dehors que rester entre quatre murs, tant à l'école qu'à la maison. Donc on est vraiment dans quelque chose dont on pense que ça ne peut prendre que de l'essor et c'est ce qui se passe en France. En 2019, les journalistes... Moi, je les avais rencontrés à l'époque et c'est vrai qu'ils ont été un bon booster pour tout ça en France. C'est Moïna Fauché-Delavigne et Mathieu Chéreau qui ont sorti un livre enquête sur ce qui existe en Europe et dans le monde sur la classe dehors, l'enfant dans la nature. Ça a été des gens qui ont vraiment permis en France que les choses se développent. Et puis, à la Fabrique des communs pédagogiques, moi, je les ai rencontrés en 2021. Ils sont venus au colloque développement durable à Lyon et c'est vrai qu'ils ont été aussi des gens qui ont vraiment porté volontairement avec la détermination que cette éducation dehors, ce n'était pas un gadget, que c'était une nécessité pour aujourd'hui et particulièrement pour les enfants du 21e siècle. Donc on est dans quelque chose qui devrait normalement s'amplifier au bénéfice de tous les jeunes parce que ça se développe aussi au collège, au lycée. Voire, moi je connais des professeurs de l'enseignement supérieur qui commencent leur année dehors et qui font chaque fois qu'ils le peuvent des interventions dehors. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Et puis on voit bien les adultes quand on sort. Ça se passe autrement dehors, quoi. On a forcément un espace plus grand et puis on est dans le rapport au temps aussi, dans quelque chose de différent qui nous fait du bien et c'est vraiment important, je pense, pour les citoyens d'aujourd'hui et du futur.
Mais alors concrètement, dans les espaces urbains ou périurbains, dans les écoles où il n'y a pas d'arbres, où il y a très peu d'espaces végétaux, comment on fait pour faire classe dehors? Quelles sont les possibilités pour les enseignants? Est-ce que vous avez observé des changements dans les écoles?
Ah ben, vous avez dû entendre ce qui se passe à Lyon, ce qui se passe à Paris depuis 2018. Et donc ces grandes villes s'y mettent, des villes plus petites aussi. Moi, je vois ma commune, moi, elle s'y met de manière très... très bien plus petite, mais elle s'y met. Il y a une prise de conscience, en fait, dans les villes. Ça a commencé par la prise de conscience des îlots de chaleur urbains. On ne l'a pas fait d'abord pour la classe dehors, on l'a fait pour rafraîchir les quartiers, rafraîchir les écoles qui souffraient de la chaleur dès le mois de mai. Mais maintenant, il y a une prise de conscience très forte et l'éducation nationale appuie dans ce sens que ce soit bon aussi pour les enseignements et notamment pour la santé des enfants. Donc oui, en milieu urbain, on a pas mal d'écoles. Il y a dans certaines villes comme Lyon et quelques les autres un programme de végétalisation des écoles. La difficulté pour les enfants, c'est qu'on végétalise une année, mais que comme les arbres, on veut qu'ils s'enracinent bien, on ne les met pas forcément très grands ou très vieux. Donc, les enfants qui vont voir installer les premières plantations ne vont pas forcément être ceux qui vont bénéficier de ces plantations dans d'ici 5 ou 10 ans où elles auront grandi. Mais il n'empêche qu'en ville, on a de la ressource, on a quand même des squares, on a des espaces verts et les enseignants sont pleins d'inventivité. Les communes se mettent à l'écoute et sont prêts à aider les enseignants à occuper un espace à l'extérieur de leur école qui peut être propice à la classe dehors. Il ne faut pas forcément des espaces très grands. Il faut surtout pouvoir avoir du végétal, de l'animal, un écosystème naturel à comprendre et à interroger. Mais oui, la classe dehors se pratique en périurbain urbain avec plus ou moins de facilité, mais des classes végétalisées vont apporter un bien-être et une facilité d'ici 5-10 ans. Ça va être quelque chose de puissant, je pense. De toute façon, c'est comme le handicap. Hein. Quand on se préoccupe de faire des espaces accessibilité, certes, ça va servir aux handicapés, mais ça va servir aussi à la maman enceinte ou avec la poussette. Enfin, ça sert à tout le monde, à tous les âges. Et ces rues des enfants, effectivement, elles sont d'abord pour les enfants, mais les grands,
mais elles sont très agréables.
Nous, tout le monde en profite. Et c'est vraiment bénéfique. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le réfléchir. Quoi. C'est un bénéfice, je dirais, quasiment universel et partagé, en tout cas.
Ben, merci beaucoup, Yvette Latuilière.
Si la thématique de l'école dehors vous intéresse, vous pouvez écouter les 4 autres épisodes de Cas d'école dans les hors-séries du mois de mai. Vous pouvez également retrouver des ressources sur cette thématique dans la rubrique Pour aller plus loin sur le site de Cas d'école à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr/cas d'école. À bientôt!